Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
Absence, l'émission de Radio Campus Paris dédiée à la musique contemporaine.
Moi, je me suis pété les oreilles sur cette impro d'ailleurs.
Une émission où on parle tranquillement d'une musique intranquille.
Radio Campus Paris, la radio de l'amour et du communisme apparemment.
C'est très drôle.
La vie de compositeur de la musique contemporaine est un peu déprimante. Enfin, je veux pas. Écoutez-en, mais sachez que.
On est comme des gamins dans, dans le grenier de grand-mère.
Quatre siamangs dans une cage qui chantent une fugue. Bon, à partir de là, voilà, c'était...
Absence, une semaine sur deux, de 21h à 22h sur le 93.9 et disponible en podcast. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Paris. Est-ce que vous en avez marre de lire que tel compositeur se situe entre tradition et modernité ? Qu'un autre maîtrise le cachet montré, ou encore d'entendre parler des faits coiffés-décoiffés, eh bien je vais en remettre une couche, parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que le 7 février prochain, le collectif Absence est invité à Présence. Mais cette fois, je vous promets que c'est pas un concept marketing pour vous vendre un peigne ou une exposition, mais plutôt qu'on vient faire la fête à la maison de la radio. Le 7 février, donc, Absence vient faire le off du festival Présence. Pendant une après-midi et une soirée, de 16h à 23h, on vous présentera de la musique, des performances, des créations dans l'espace de l'Agora de la Maison de la Radio. On se retrouve donc pour parler de tout ça avec Zoé Villechange de l'association Silhouette, l'association de cinéma avec qui on partagera l'Agora. Bonsoir Zoé.
Bonsoir à tous.
Avec Maël Bailly qui est compositeur et dont on jouera une des œuvres cet après-midi-là.
Bonsoir.
Avec Ella Mundinger qui est compositrice et on jouera aussi sa pièce poncée.
Oui, bonsoir.
Avec Mickaël qui organise un peu tout ça.
Salut.
Et avec Yacine à la technique.
Salut.
On va vous présenter donc ce projet qui s'appelle l'Agoraphone. Donc c'est ça, le off de présence. Mais d'abord, on va commencer par écouter un extrait du concerto pour Melodica de Yonosuke Okamura qu'on jouera aussi dans la soirée. Et on écoute ça tout de suite.
Thank you.
On écoutait donc le concerto pour Melodica de Yunusuke Okamura, qui sera joué le 7 février à l'Agoraphone, donc à la Maison de la Radio. Pour vous parler un peu plus en détail de ce concert, il va se dérouler en plusieurs temps, avec une première partie de 16h à 17h30 et une deuxième de 20h30 à 23h. Est-ce que, Mickaël, tu peux nous donner un peu le détail de la programmation ?
Oui, programmation. L'idée c'était, comment dire, c'était un petit peu de, parce que cette association Absence, elle a une histoire, donc ça fait depuis 2018 que ça a été créé, etc. Enfin, on le répète dans toutes les émissions, donc je vais pas m'élargir là-dessus, mais l'idée c'était un peu de recréer ces moments, vu que, alors comment dire, ça fait six événements qu'on fait dans le même lieu des concerts. Et donc là, c'était la première fois qu'on expérimentait un nouveau lieu. Donc c'est la première fois qu'on expérimente un nouveau lieu. Et donc c'était un peu de repuiser dans ce qui nous avait amené à recréer ces concerts, à créer ces concerts de musique contemporaine. Et donc, l'idée c'était de replonger dans ces programmes interminables un petit peu. Là où je crois que le premier programme d'Absence, c'était à peu près 12 pièces. 13 ou 14. Il y en a qui ont été supprimés pendant le concert, il y en a qui ont été rajoutés, etc. Et du coup, l'idée, c'était un peu de renouer avec cette option-là, de se dire, on amène plein de musiciens, on leur fait jouer beaucoup, beaucoup de pièces pour qu'ils ne soient pas venus pour rien. Et donc, ce qui nous amène à une programmation assez alambiquée. Bah, là, on écoutait justement... ce concerto pour Melodica de Yunusuke Okamura, qu'il a écrit il y a déjà quelques années, 5-6 ans, et qu'il a réécrit à l'occasion. Et alors l'idée, c'était toujours de se dire comment on amène le public à une écoute différente et en même temps, il ne faut pas torturer le public, si je puis me dire.
Pas trop.
Pas trop, on va dire. Et donc, si je voulais, je vous fais une liste de courses. Il y a du coup en ouverture à 16h pétante, on ouvrira avec la pièce, la réinterprétation de La Montée Young qu'on avait joué la dernière fois, mais par le compositeur Hugo Calia. Hugo Calia qui est un compositeur jeune, qui fait un mémoire sur Cage et en même temps qui étudie la botanique. Et qui...
Les champignons.
Et les champignons, forcément, s'il fait un master sur Cage. Et donc, l'idée, c'était un peu de lui demander... on a envie de rejouer cette pièce, La Montée Young, 1960, qu'on a déjà joué à notre dernier concert. Mais on a envie d'avoir une vision nouvelle sur cette œuvre. Et donc, il a composé une partition semi-graphique. Et qui va durer une quinzaine de minutes. Ensuite, du coup, alors, vraiment, vous voulez que je fasse une liste de courses ou pas ?
Dis-nous ce qu'il y a, ouais.
Ok. Et donc, une pièce de Naoki Sakata qui a pris la place de Takemitsu en composition. Alors, c'était un grand compositeur japonais, Takemitsu, qui enseignait au Japon. Et donc, Naoki Sakata, c'est un des élèves de Gervasoni qu'on a invité il y a quelques semaines. Et tout cela est alambiqué, et c'est un labyrinthe. Mais bref, compositeur japonais qui enseigne au Japon et qui a une belle tradition en tout cas. Et qui sera pour clarinette solo. C'est un gros, gros, gros solo de clarinette parce que ça dure 10 minutes. C'est assez difficile. C'est un peu comparable à une séquenza de Berio, par exemple. Pour ceux qui connaissent pas, allez regarder. Et on aura aussi une pièce de Ella. Je sais pas si tu veux en dire quelque chose, de pièce foncée.
Oui, alors là-dessus, mais vas-y.
On en reparlera ou
oui. Ah. Tu peux dire un peu en deux mots.
Pièce foncée qui a déjà été jouée du coup il y a 3 ans. Enfin, c'était pour le 2 ans. C'était pour l'absence 3. Ouais. Et donc, il avait été joué par instrumentiste solo. Et donc là, je l'ai réécrit pour 8.
Ok, trop bien. On a hâte. Et c'était pour pianiste et parquet, je crois,
oui.
À la base.
Et du coup, là, c'est 8 interprètes qui poncent, et pas forcément des musiciens, d'ailleurs.
Trop bien, trop bien. Et ensuite, on enchaîne avec... Alors, l'idée, c'était de... Parce que Radio France programme Stripsody de Cathy Berberian. Et donc, moi, j'adore cette pièce. Et avec la chanteuse qui va faire beaucoup de programmes, on adorait cette pièce. Et du coup, l'idée, c'était de se dire comment la réinterpréter en 2025. Parce que c'était une pièce très d'actualité, Stripsody. Enfin, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de comics, etc. Et donc, on, du coup, Jade Tournesse, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça, c'est... Elle nous dira. on a décidé d'appeler ça Bad Tripsody et de mettre des éléments de TikTok, du quotidien, etc. Donc, ça va être un peu une Tripsody revisitée, un peu en mode chaos. Mais du coup, Bad Tripsody, il y a une pièce de Maël Bailly. Roue Libre ?
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais, voilà. Et bon, 3 vélos suspendus, quatuor de guitare, harpe, flûte, clarinette, violoncelle. 2 mots encore ?
Voilà, c'est comme pour Ella, ils poncent pas, mais ils réparent des vélos et ils sont accompagnés par un petit ensemble qui leur donne la réplique.
Et je vais faire plus vite parce que sinon on va s'éterniser. Philly Day Love Story, qui est une pièce pour papier toilette, où l'idée c'est de dérouler des rouleaux de papier toilette. Une création de Capucine Picard, jeune compositrice. Alors c'est sa première composition, elle est jouée à Radio France, c'est quand même assez incroyable. Palmarès. Yu Chao Yang, qui va nous interpréter une pièce qui s'appelle Onomatopée Généville, qui est un dérivé de ce qu'il avait proposé à notre dernier concert. Et en gros l'idée c'est de s'emparer des sons de la ville et de les incorporer en musique avec le public. Alors, me demandez pas vraiment ce que c'est, mais on verra. Il y a un duo, Alice Lambert et Fabienne Gonzalez, qui proposent de la danse avec un dispositif électroacoustique. Il va y avoir des micro-piezo. Micro-piezo, c'est des micro-contacts. Voilà.
Sur le sol.
Ouais, sur le sol, normalement. Ensuite, du coup, ça, c'était pour la première partie à 16h et à 20h30. Donc, on a Lou Lenormand, qui est une danseuse assez fantastique, chanteuse aussi, qui va faire une performance qui s'appelle « Tendre, étendre et tournoyer ». Donc, ça, c'est que de l'acoustique. Et donc, ça me faisait plaisir de commencer la grande scène par une petite scène. Et ensuite, on a le duo Limen, qui est composé de...
Jules Boer de Milleret à la contrebasse et Eugénie...
Lefort
au violon.
Ouais, heureusement qu'on est deux. Et qui est un duo d'improvisation, de la classe d'improvisation générative de Marqueas, enfin héréditaire de ça, et qui font un chouette duo. Et du coup, l'idée, c'était pourquoi pas mêler l'improvisation, pourquoi pas. Une pièce de Myriam Marbe qui a été proposée par toi et là d'ailleurs.
Oui, qui s'appelle Trommel Basse, ouais. Pour trio à cordes et grosse caisse.
Ouais, à voir si on trouve la grosse caisse, mais ça, ça on y arrivera.
Oui.
On y arrivera. Et enfin, juste avant de finir, une pièce de Julius Eastman qui dure 24-25 minutes qui s'appelle Stay on It. Alors, ça. C'est une pièce un peu historique, mais qui est passée sous les radars. Une pièce de musique minimaliste, mais maximaliste en même temps. Enfin, je ne saurais pas trop. Toi, Maëlle, tu as une idée de comment décrire cette pièce ?
Moi, je ne la connais pas de Julius Eastman. Je connais Gay Guerilla, que j'adore, qui est peut-être un peu pareil. Voilà, elle est très longue, elle se développe pendant longtemps et tout. Et puis, je ne sais pas, il y a un truc... C'est vrai, c'est un peu des endroits qui n'ont pas été très vus, regardés, entendus. Donc,
ouais. Bah, l'idée, c'était, vu qu'il y a eu le présence sur Steve Reich il y a deux ans, c'est pas quelques années, c'était de montrer une autre face du minimalisme. Et d'ailleurs, historiquement, c'est un peu bizarre la réappropriation de Steve Reich. Mais bon, ce sera un autre sujet d'une autre émission peut-être. Mais et du coup, l'idée, c'était de se dire qui d'autre a fait du minimalisme en autre que ces grandes figures un peu patriarcales qui sont Philip Glass et Steve Reich. Et du coup, ce compositeur. Et alors, autre toute justification un peu alambiquée, un peu politique, un peu à la con, il y a un peu ce truc de on l'a écouté en réunion. Et d'un seul coup, on s'est mis à danser de la cumbia dessus, etc. Et donc, on s'est dit, bah, bien entendu, ça rentre dans la programmation. Et d'ailleurs, ce concerto de Yonosuke à la Melodica qu'on a entendu un peu avant, quand il nous l'a fait écouter, bah, on a dit, bah, bien entendu. Enfin, comme on ne peut pas programmer ça. Et parce que c'est tellement décalé en fait de tout le processus de la musique contemporaine actuelle, c'est-à-dire très sérieuse, très lourde de sens et historiquement qui a un passé énorme, etc. Et donc ouais, un concerto pour Melodica, une pièce de musique répétitive qui n'est pas si connue que ça et en même temps qui veut dire beaucoup et en même temps qu'on adore et en même temps on peut danser de la cumbia dessus, et ben, que demander de plus. Et puis pour finir ce monologue de 15 minutes, il va y avoir une boom rétrograde. Alors ça, c'est une boom rétrograde. Alors ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que c'est le rétrograde? Pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est une forme d'écriture. Alors pour faire très simple, c'est une forme d'écriture. L'idée, c'est imaginez-vous une mélodie. La forme rétrograde, c'est la forme miroir inversée. Ça va?
Ouais.
J'ai perdu personne.
C'est des choses.
À l'envers.
T'as vu ça? C'est ça, big brain. Et du coup, l'idée, c'était de faire une boom. Et en même temps, on a interdiction de danser dans cet espace. Parce que ça s'est écroulé il y a quelques années. Donc l'idée, c'était de faire une boom, mais qu'on danse pas. Et donc, une boom rétrograde. Et la ligne éditoriale, c'était un peu de dire, on s'inspire de Pierre-Henri. Parce que voilà, historiquement, Pierre-Henri, c'est quand même un des légataires de Radio Campus, etc. Et de la jeune création. Et du coup, l'idée, c'était de, ouais, voilà, c'est de boom rétrograde, c'est un peu ça l'idée, de faire danser les gens sans les faire danser. Et je crois que Jade Tourne une idée très précise derrière la tête. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si on danse, on va en enfer.
Et donc, c'est littéralement le cas puisque ça s'est écroulé la dernière fois qu'ils ont lancé.
Voilà, c'est un peu ça. Et donc, qui ira en enfer?
Oh mon dieu.
Je finis ce monologue.
Bah, magnifique.
Quel enfer.
Et bah, justement, on peut peut-être s'intéresser de plus près à certaines de ces pièces. Maëlle, ta pièce roue libre, donc pour 3 vélos, 4 guitares, une harpe, une flûte, une clarinette, un violoncelle et un chef. Sera joué à la fin de la première session, donc vers 17h30. Alors, comment t'es venue l'idée de travailler sur des vélos? Ma grande question, c'est, est-ce que t'es cycliste, toi? Tu fais du vélo?
Ouais, j'en ai fait, mais j'en fais plus, okay. Parce qu'à Paris, il fait trop froid,
oui.
je trouve. Mais, alors, comment m'est venue l'idée? En fait, je cherchais à faire de la musique pour autre chose que des concerts. Et il y a cette association de vélos à Charenton-le-Pont qui s'appelle Roue Libre, voyez-vous, et qui fêtait son premier anniversaire en 2023. Et voilà, l'idée de la pièce, c'est de leur faire une pièce pour leur anniversaire. Voilà, donc c'est ça. J'ai travaillé cette pièce-là dans leur atelier où il y a plein de vélos, mais j'en ai choisi 3. Et qui sonnait bien, qui avait des petits sons marrants, qui s'entendaient assez parce qu'il n'y a pas de micro, donc voilà, faut trouver des trucs en acoustique, voilà, avec des vélos. Et il y avait des pieds d'atelier, c'est les trucs sur lesquels on suspend les vélos pour les réparer en faisant tourner les roues et tout ça. Donc et il y avait aussi des petits sièges qui tournaient, qui peuvent tourner quand on s'assoit dessus. Et donc voilà, il y a toutes ces choses dans la pièce, ça vient de là.
Ok, trop bien. Et il y a quand même un sacré effectif. Je me demandais comment t'as choisi, quels instruments vont bien avec un vélo. Est-ce que par exemple, au bois et vélo, c'est trop moche et t'aurais jamais mis ça ensemble? Ou est-ce que, enfin, comment ça s'est passé pour choisir ce que t'allais mettre?
Bah, j'adore le bois.
Mais tout ne peut pas aller ensemble.
Mais ouais, mais on peut pas mettre tous les instruments, malheureusement. Il y avait un peu l'idée, une petite idée visuelle du rayon. Voilà, 3 vélos, c'est 6 rayons de rayon, donc c'est comme des cordes. Et je me dis, ouais, plein de cordes. Alors, on va pas mettre que des Corses, faut un peu voilà et quand même, alors il y a une petite idée derrière le fait de mettre beaucoup d'instruments. C'est un peu l'idée d'avoir un décalage entre les vélos pourris que tu répares et puis bon bah voilà le garage à Champigny et tout qui est dans un énorme local où la mairie entrepose les utilitaires pour nettoyer la route et puis enfin voilà où il y a tout ça et de faire un décalage entre voilà ça qui sont les solistes et puis l'accompagnement qui est une harpe avec plein de dorures un violoncelle magnifique, des guitares, enfin voilà, qui est un petit décalage comme ça, ça me plaisait.
Bah, c'est génial. On va tout de suite écouter un court extrait de Roue Libre, donc composé par Maël Badi. Donc tu nous disais que tu as composé cette pièce pour une association de vélos ou un garage, c'est ça ? Enfin, en tout cas, là, c'est joué dans un garage dans la vidéo d'où provient l'extrait. Et c'était des pièces qui se jouaient pas en concert. Enfin, c'était dans l'idée de faire une pièce qui se jouait pas en concert. Là, ça va être quand même un concert. Est-ce que tu as dû adapter des trucs ou est-ce que tu vas transposer directement cette idée-là sur une scène ?
Non, on va rien adapter. Hein. C'est une association qui a un garage.
Donc d'accord.
À qui la mairie prête un garage. Voilà. Et non, alors il y a toujours le petit problème du sol, parce qu'à un moment donné, ils font tomber leurs clés à molette. Alors sur le sol d'un garage en Jean-Pierre, c'est merveilleux. Mais sur du lino ou de la moquette, c'est assez rigolo. Il faut soit une petite adaptation, soit accepter que... Il y a un petit comique du fait qu'il n'y ait pas de bruit.
Bah, ça, on y travaille, question scénographie.
Ah.
Et on va débaucher une plaque de métal ou quelque chose. Tout cas, on cherche un truc pour faire tomber une clé à molette dessus.
Super. Mais alors sinon, j'ai rien contre le concert. Donc en fait, elle a déjà été rejouée après une fois en concert. Mais c'était juste moment d'inspiration. Pourquoi écrire en premier ? C'était ça qui m'intéressait après qu'il y ait de concerts, pas de concerts, voilà. Bon, moi, je suis content que c'est des concerts.
Ok, mais en tout cas, j'ai hâte d'entendre ces instruments un peu insolites en live. Et c'est quand même un peu un fil conducteur de la programmation, puisque Mickaël vous a parlé de PQ, 7 joueurs de PQ. Et la pièce d'Ella, ça va être pour donc interprète qui joue du bois et du papier de verre, puisque ça s'appelle donc pièce poncée. Et le principe, c'est qu'ils frottent ça ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça ?
Donc l'idée, c'est que de cette pièce, c'est d'aller à la rencontre du lieu. Donc en touchant les murs, le sol, le public, pourquoi pas, avec la main. Et puis ensuite, de sortir ce papier de verre et d'en faire la même chose. Alors, j'ai pas envie non plus que cette œuvre, que cette pièce soit bannie et d'aller à l'encontre de la Radio France. On va pas poncer les murs de radio. Donc je prévois des planches en bois pour cela. Mais en fait, donc sur les papiers de verre, il y aura gravé la partition. Et donc on ponce le lieu en soi. Enfin. Oui, on pense. Il y a une destruction du lieu et une destruction également de la pièce musicale. C'est ça l'idée. Et du coup, pour l'adapter pour l'agoraphone, je l'ai arrangé pour 8 interprètes. Alors, c'est plutôt un double quartet parce que ce sont des duos. Ça fonctionne par duo. Et donc, ils seront espacés dans l'agora pour encercler le public. Chaque instrumentiste aura sa planche en bois. Et puis j'ai visé avec ce réarrangement qu'il y ait des parties qui soient plus faciles que d'autres, parce que l'idée d'absence, quand même, la force d'absence depuis le départ, c'est la collaboration entre les différents arts. Et donc j'avais envie, et je trouvais ça naturel pour l'agoraphone, que des musiciens puissent aussi jouer avec des danseurs, des scénographes, des plasticiens, pourquoi pas, et recréer un petit peu cette émergence, cette performance ensemble.
Trop bien. Et il y a quand même, je trouve, dans l'action de poncer, un truc hyper laborieux, enfin, parce que tu parles de détruire le lieu et la partition, mais t'aurais pu le cramer, on est content que tu le fasses pas, mais il y a des façons plus simples de détruire. Est-ce qu'il y avait un peu cette idée-là de s'user à la tâche ou pas trop?
Donc dans la fois où ça a été joué à absence, Sam Egan, qui l'avait interprété, était habillé avec des habits de travail. Donc l'idée, c'était qu'il soit vraiment un ouvrier, un ponceur, et donc qui sue.
Ouais.
Et donc cette pièce est venue des raboteurs de parquet de Caillebotte. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du papier de verre, et puis jusqu'à ce qu'on n'en peut plus, quoi.
Ouais. Et comme dans ta pièce, Maëlle, de l'idée de réparer le vélo, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus léger. Enfin, j'en sais rien, en fait. Est-ce que tu te retrouves aussi dans ça, dans un peu s'acharner à réparer d'un vélo, tu disais un vélo un peu pourri?
Non, il s'acharne pas, même à un moment donné, il se repose pendant un quart d'heure. Non, pas pendant 5 minutes et tout ça. Non, c'est pas tellement l'effort physique, c'est un peu joyeux, c'est un peu dimanche, quoi. Voilà. Donc, mais voilà, c'est quand même des corps au travail qui essayent de faire des choses qui sont normalement pas très musicales à la base.
Ok. Et donc toi, Ella, tu nous as expliqué que les instrumentistes seront répartis, ils entourent le public, donc il y a aussi cette sorte de spatialisation. Est-ce que c'est un truc important pour toi? Et aussi, bon, c'est un peu une autre question, mais je te l'ai dit maintenant, est-ce que comment tu fais pour différencier un peu tous les instruments? Parce que de base, c'est écrit pour un seul ponceur. Et là, il y en a 8, mais qui jouent tous exactement la même chose. C'est pas comme... Non, ils jouent pas tous la même chose. Explique-moi.
vous verrez. Mais en tout cas, je l'ai réarrangé pour que chacun ait une rythmique spécifique. Et il y a un chef parmi les 8 pour donner les appels, en fait. Ouais. Et du coup, cette idée de spatialisation, pour moi, c'est important dans mon travail, juste pour que les choses soient plus compréhensibles pour moi, déjà dans ma manière d'écrire. Je mets toujours un peu de théâtralité ou de mise en scène, en tout cas, dans ce que j'écris. Pour moi, pour que je sache où je vais dans l'écriture, je trouve ça difficile. Et puis aussi, peut-être donner des pistes au public.
Ouais. Et puis à la programmation, en fait. Parce que finalement, le fait qu'on ait déjà programmé cette pièce pour solo et qu'on la reprogramme pour 8, moi je sais que moi qui ai fait à peu près la programmation, et ben il y a un côté où ça me donne des billes, en fait. Entre le papier toilette et entre la pièce de Maëlle, et ben finalement ta pièce est incroyable. Enfin, tu vois, ça s'agence à merveille. Et c'est une façon, je pense, c'est une très belle façon d'amener la musique écrite ailleurs pour la ramener derrière dans la programmation à de la musique avec instrument, on va dire. Et il y a ces va-et-vient qui se créent bien.
Bah, c'est sûr qu'il y a une bonne ligne directrice du matériau, quoi.
Ouais.
Du matériau pur et.
Ouais, et puis là où il y a un petit truc en commun, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais c'est que c'est des sons qui sont assez bêtes, pas très intéressants de base. En tout cas, moi, un son pour vélo, en 10 minutes, tu as fait le tour. Il n'y a pas énormément de diversité. J'imagine qu'un son poncé aussi, c'est assez simple. Et puis, il y a toute une... Enfin, voilà, dans plein de pièces qu'on fait, on essaye de trouver des sons un peu incroyables, un peu... Voilà. Et quand on a des sons un peu pauvres, on doit se creuser la tête différemment, trouver d'autres petits trucs, trouver des astuces pour que la musique tienne quand même, quoi. Et c'est peut-être... entre le PQ, le papier de verre et puis la clé à molette.
Et la mélodica. Sûrement. Disons que l'idée, enfin, comment faire une programmation qui respecte un petit peu la musique écrite et la grande musique écrite et en même temps sans jouer, et finalement le carrefour le plus simple en tant que programmateur, c'est cette programmation, quoi. C'est un peu une grande porte ouverte qu'on a enclenchée, mais en même temps grande porte ouverte qui est pas si simple que ça dans le contexte, en tout cas. C'est que si on jouait ça dans un atelier ou dans une usine, ou même dans un petit conservatoire, et ce serait tout à fait jouable, et ce serait tout à fait honorable même de faire venir oh oui, il ponce le bois, oh quel énergumène. Sauf que là, en fait, on le joue dans le plus gros festival de musique contemporaine au monde, enfin un des plus gros festivals, je pense le plus gros, et du coup. Et on amène ça, en fait, dans un des plus gros festivals de musique contemporaine. Et donc, l'idée, c'était toujours, entre respect et entre moquerie, tu vois, entre vous écrivez des choses très belles et tout, et la musique est incroyable, mais on a envie de rigoler un peu et on a envie de se moquer de vous un petit peu. Et je pense, toute la programmation est issue de ça. Si on part de cette réinterprétation de la Montée Young, qui est une pièce comme bête comme mes pieds, où t'as vraiment juste un accord à tenir pendant très longtemps. Alors comment réinterpréter ça? Enfin, c'est impossible, en fait. Et alors Ugo Kallia, il a réussi. Mais enfin, et quand on voit la seule pièce à peu près sérieuse, c'est la pièce pour clarinette solo de Naoki Sakata. Mais sinon, je ne vois rien de sérieux dans cette programmation. Et en même temps, c'est de la musique très sérieuse parce qu'elle est écrite et parce qu'il y a tout un processus, et parce qu'il y a tout un processus d'apprentissage, de développement du matériau musical, des matériaux qui sont souvent pas nobles. Et du coup, j'espère, c'est un peu ça la richesse de ce qu'on propose, en tout cas.
Moi, j'ai une petite question par rapport à ça, parce que quand même, on danse un peu avec le diable, là. Parce que absence et présence, enfin absence, peut-être que c'est mon désir qui parle, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même construit un peu en adversité, un peu
un souillard.
De manière critique, voilà. Et puis là, vous êtes au cœur, dans le ventre de la bête, comme dit l'autre. Ouais. Et qu'est-ce que ça change, ça?
Alors, moi, j'aimerais bien raconter l'histoire de comment on a trouvé Absence, peut-être. Ça répondra peut-être à la question. Parce qu'on était chez moi en train d'imaginer le premier concert avec Gilles, Marie-Lou et je ne sais plus qui d'autre. On buvait beaucoup de vin rouge à cette époque. Et donc, on réfléchissait à un nom. Alors, on avait déjà tout. On avait déjà le programme. On avait déjà le lieu, etc. Et on réfléchissait. On disait, il faut un nom et tout ça. Puis alors, nous, avec Gilles, on se dit, mais on peut appeler ça Crack. K-R-A-K. Et donc, il y a peut-être un monde parallèle où Absence s'appelle Crack. Mais... Et puis on était là, on était super contents de notre bêtise et tout. Et puis après on commence à chercher un peu et tout. Et puis on dit mais en fait on a envie de faire un peu l'opposé de la programmation de présence. Et puis là Marie-Lou nous dit appelez ça absence, quoi. Et puis là d'un seul coup on s'est dit oui. Et alors c'est vrai que c'est cet opposé de programmation, mais en même temps comme je disais, il y a une forme de respect pour tout le travail accompli. Et c'est vrai qu'il y a des pièces extraordinaires qui sont données à ce festival. Moi, j'ai pu découvrir Nuit de Xenakis, que je réécouterai sûrement jamais de ma vie. Les trois petites liturgies de la présence divine Amen Messian, que je réécouterai sûrement jamais aussi. Enfin, il y a énormément de pièces qui sont données à ce festival qui est presque en exclusivité dans une vie, quoi. Et donc, il y a toujours eu ce dilemme entre opposition et en même temps, vas-y, on vous aime bien quand même, mais en même temps, tu sais, c'est comment dire, c'est un peu taquiner l'ogre, tu vois. Tu vois, enfin, c'est genre, tu lui chatouilles les pieds avant qu'il t'écrase, quoi. Et c'est un peu ça qui va se passer le 7 février. N'hésitez pas à venir. Mais ouais.
Bah, pour revenir un peu sur... Il y a quand même une autre pièce un peu sérieuse, ou en tout cas peut-être plus... moins pied de nez et peut-être plus tendre. Enfin, je sais pas si tu seras d'accord, puisque je comprends que c'est toi qui l'as proposé. Et là, c'est Trommelbass de Myriam Marbeux. Est-ce que, Paris, tu voudrais nous dire un peu pourquoi cette pièce te parle et tout, et pourquoi... Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de la proposer ?
Je sais pas, je l'ai écoutée et j'ai trouvé ça... Je trouvais ça audacieux, un tout petit peu punk, pas trop, quand même assez sage, mais quand même, c'est une compositrice roumaine et avec plein de sonorités très étranges. Le trio n'improvise pas, mais en tout cas, il improvise un tout petit peu. Il est vraiment assez free dans certaines parties au niveau tempo, au niveau temporalité. Donc il y a ce truc très trio à cordes, quoi, qui avec vraiment une belle synergie de musique de chambre, mais tout en étant très très brut de décoffrage au niveau des sonorités.
Ok, ouais, c'est marrant parce que moi, en l'écoutant, j'avais plutôt l'impression, parce qu'en gros il y a une pulsation tout au long, que soit par le violoncelle, soit par une grosse caisse à la fin, on espère. Et du coup, il me semble qu'en plus elle l'évoque, mais ça me faisait penser à un petit cœur qui bat. Mais bon, après, c'est mon côté fleur bleue, peut-être.
Peut-être.
Mais ok, et pour revenir un petit peu sur ton travail, après, on va écouter une de tes pièces. Et là, il y a aussi, j'ai l'impression, l'idée de faire entendre et peut-être presque même imposer aux gens d'écouter des sons qu'ils voudraient peut-être éviter ou qu'ils voudraient.
Pas forcément éviter, mais en tout cas des sons qu'on écoute tous et qu'on entend tous, mais qu'on n'écoute pas forcément. Des sons de la vie quotidienne. C'est en gros ma ligne directrice dans mon travail.
Et on retrouve pas mal ça dans d'autres pièces aussi, qui seront programmées à l'Agoraphone. Et justement, on va écouter Semi-Navigo, qui est composé à partir des sons du métro, par Ella Mündinger, une œuvre électroacoustique.
Thank you.
c'était Semi Navigo de Ella Mündinger, dont on entendra la pièce poncée le 7 février à l'Agoraphone. Mais donc ce 7 février, il n'y aura pas que de la musique, il y aura aussi des courts-métrages qui seront projetés juste à côté de là où nous on aura notre scène. Et ces courts-métrages, ils ont été sélectionnés par l'association Silhouette, et on a avec nous Zoé qui fait partie de cette association. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Bah ouais, carrément. Silhouette, c'est une association qui est là depuis plus de 20 ans. 25 ans cette année d'ailleurs. Et c'est vraiment œuvrer à la promotion du court-métrage. Il y a des actions à l'année, mais il y a surtout le festival, qui est un festival en plein air, qui se déroule à chaque fois à la fin de l'été, début septembre, avant la rentrée. Tous les jours, en fait, c'est parce que c'est très connu pour le court métrage, mais il y a aussi en fait toute une programmation musicale. C'est-à-dire que chaque soirée s'ouvre par 2 heures de concert, qui sont ensuite suivies de 2 heures de programmation de court métrage en sélection officielle. C'est aussi toute la journée des programmes parallèles, parce qu'on fait du clip. Il y a des films d'école aussi depuis peu, des programmations dédiées. Donc la journée, ça va être soit dans des espaces partenaires, soit donc sur le parc où on est présent pendant 9 jours. Voilà, un peu bricolé, mais on se débrouille. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus, je me perds. Mais oui, du coup, il y a quand même une programmation musicale qui est là avant que la nuit tombe pour la projection plein air. Et c'est quand même 9 jours de concert. Et le but, c'est vraiment de mettre en avant en fait les artistes contemporains de la scène francilienne. Depuis l'année dernière, ça fonctionne comme sous forme d'appel à projet, en fait, appel à concert. Là où avant c'était des programmateurs qui allaient chercher, là maintenant tout le monde peut proposer. Voilà, c'est vraiment musique et cinéma, et dans une logique de démocratisation complète. Je veux dire, tout est gratuit, tout est absolument ouvert. C'est un festival qui est international, qui est très éclectique. Et qui se veut exigeant aussi, mais dans le bon sens du terme, sans être dans l'élitisme ou sans se vouloir pédant. Et là, on a été en fait contacté par Radio France pour faire une séance spéciale. Alors, je peux pas m'approprier le travail qui n'est pas le mien, puisque je n'ai pas fait la programmation, mais j'ai visionné tous les films. Et je pense que la logique, c'était d'offrir un panel de films assez large, assez vaste. Il y a 2 clips. Mais qui n'ont rien à voir. Il y en a un, ça va être complètement... c'est une performance. Ça a été encadré pendant 4 mois. Et après, c'est 4 jours d'enregistrement et de captation. Voilà, où c'est une voiture lancée dans le désert avec tout un dispositif. Enfin, voilà, vraiment quelque chose de l'ordre de la performance et de l'expérimental. Et l'autre clip, c'est beaucoup plus classique, on va dire, dans la construction, dans la narration. Ça a été mis en scène par... scénarisé en tout cas, c'est certain, par Spike Jonze. Et de base, c'est des danseurs en fait dans un musée. C'est les danseurs du Ballet National de Marseille. Et c'est une collaboration aussi avec Ron, qui est compositeur de musique de film. Il me semble que c'est lui qui a fait la BO de Olympiade de Jacques Audiard. Voilà, mais il y a aussi des films plus classiques avec une forme narrative qu'on connaît tous. Voilà, Je sens le beat qui monte en moi de Yann Le Kellec, ou c'est une dame qui est atteinte d'une espèce de pathologie que personne ne connaît. Dès qu'elle entend de la musique ou même n'importe quel bruit, un marteau piqueur dans la rue, justement un bruit de passe Navigo, elle danse compulsivement, et donc elle, voilà, c'est des stratagèmes pour éviter tout bruit, toute sonnerie, parce que sinon on peut pas s'empêcher de danser. On a aussi un film qui est très beau, qui ressemble à une symphonie urbaine en fait, vraiment, où c'est de la captation de son du commun à Lisbonne. Et donc ça fait une espèce de fresque musicale, parce que tout est samplé, tout est remonté, remixé avec des images documentaires. Après, on a aussi un dernier film qui est très expérimental. Je m'aventurerai pas trop dessus parce que je connais pas bien le travail de ce monsieur, qui est pourtant très prolifique, mais où c'est vraiment très expérimental pour le coup. Il travaille aussi, là il a travaillé avec une harpiste sur ce court-métrage qui est... Il fait 4 minutes, je crois, c'est une sorte de clip, c'est de la harpe, et il y a toute une altération de l'image. Et voilà, ça peut aller de l'expérimental total, presque œuvre pour moi d'exposition, voilà, qu'on pourrait retrouver dans le cadre d'une exposition acte presque curatorial comme de la narration plus classique, voilà. Et je pense que le but, c'est de, voilà, de montrer tout ce qu'on peut faire avec le son au cinéma et en lien, et mettre aussi en avant toute la dimension sensorielle. Voilà, parce que c'est vrai que souvent le son au cinéma est un peu relégué au second plan, alors que ce soit le son ou la musique, en fait, ça fonctionne de manière beaucoup plus souterraine, mais là, on va avec l'autre et d'explorer les différentes formes. Voilà.
Ok, trop bien. Et tu as parlé de clips et de films.
Ouais,
c'est quoi la différence entre les deux? Puisque surtout que les films, ils vont être quand même avec une thématique musicale.
Ouais. Les clips, là, il y a un clip où vraiment, ce que je disais là, dans le désert, par exemple, c'est un titre qui avait déjà été enregistré et là, ils l'ont recréé, en fait, en version live dans une espèce de clip. Je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment de la performance. Ils ont recréé, en fait, la partition en roulant dans le désert et avec tout un procédé. l'autre clip, après le clip, là, avec les danseurs du ballet national. Du Palais de Marseille. eux, c'est vraiment une étroite collaboration. Donc, il y a musique et danse qui se combinent. Et en même temps, du coup, il y a ce regard de mise en scène et de comment on filme. Donc, je trouve que toutes les créations sont quand même relativement ouvertes à plein de propositions. Voilà, c'est comme la symphonie urbaine. C'est des images de documentaires. Mais enfin, ça raconte aussi une histoire. Donc, je sais pas, je mettrai pas je dis clip parce que c'est comme ça que ça a été énoncé, présenté. Après, prenez-le comme vous le voulez.
Et c'était des films dans vos archives ou pareil, il y a eu un appel
On a beaucoup d'archives. On a plus de 1500 courts-métrages, je crois. Mais il y a en partie de l'archive et aussi de la recherche, en fonction de la culture et des appétences de chacun. Qu'est-ce qu'on a envie de proposer. Jacques Perconte, je sais que c'était une volonté de la coordinatrice générale et artistique qui voulait mettre en avant son travail, quoi. Donc, il y a un peu des deux. Majoritairement, c'est des archives. Et c'est des films, parce qu'on faisait des films qu'on maîtrise et qu'on connaît bien, mais je veux dire, ça reste très ouvert aussi, quoi.
Ok. Et que ce soit là pour l'Agoraphone ou dans votre festival, en général, comment vous faites la part entre ce qui est la création, l'archive, ce que vous allez chercher d'un côté et d'un autre?
Pour le festival, c'est purement de l'appel à film, de ce qu'on reçoit. Okay. Ça va vraiment être pour à l'année, s'il faut faire des ciné-clubs ou autre. Voilà, là, typiquement, quand on nous appelle, voilà, ça va être créer une programmation pour s'adapter au mieux à un public. C'est tout le but de la programmation, c'est de proposer quelque chose de à la fois exigeant, intéressant, riche, mais accessible. Voilà.
Bah, trop bien. J'ai hâte de voir ça.
Moi, j'ai peut-être une question qui me tracasse.
Dis-moi tout.
Tirons-moi les verres des oreilles. quelle a été votre réaction, du coup, dans votre équipe à Silhouette quand vous avez été contacté par un festival de musique contemporaine pour proposer des films, quoi? Enfin, parce que est-ce que vous connaissiez ce festival, Présence? Est-ce que vous connaissiez un peu la musique contemporaine? Enfin, c'est vraiment par pure curiosité.
Moi, personnellement, pas du tout. Après, voilà, je suis aussi, pour le contexte, je suis étudiante alternante, je suis en chargée de communication, j'ai débarqué au mois de novembre.
Tu connais pas les trois petites liturgies de la présence divine?
Mais d'où est-ce qu'elle sort celle-là, quoi? Non, je crois pas, mais je crois que, c'était vraiment, on a été démarché par Radio France, donc nous, on était là, ça, sérieusement, génial, trop chouette, quoi. Parce qu'il y a aussi ce côté-là de l'Agoraphone, c'est aussi un espace de partage gratuit, quelque chose, un peu décalé, un peu moins institutionnel, classique. Et je trouve que ça représente assez bien l'identité de Silhouette. Je veux dire, on est qui pleuve, qui vente. On est là pendant 9 jours dans le parc, à monter l'écran. Et c'est un lieu de rencontre, en fait. C'est beaucoup ça aussi, Silhouette, c'est... accessibilité, rencontre, et je pense que c'est plus cet esprit-là où on s'est reconnus, et après, je veux dire, ça reste un plaisir de pouvoir montrer des courts-métrages, peu importe où, en fait.
Ouais, trop cool.
Bah, c'est trop chouette, tout ça. Vous pouvez nous retrouver très bientôt en vrai, Donc le 7 février de 16h à 17h30, puis de 20h à 23h à l'Agoraphone, c'est-à-dire dans l'espace Agora de la Maison de la Radio. Est-ce que en attendant vous avez des trucs prévus?
Faut prendre des billets.
Oui, mais c'est gratuit, c'est gratuit.
Mais c'est gratuit,
ouais, c'est ça.
Mais faut réserver.
Ouais. Sur le site de la Maison de la Radio, c'est?
Oui, normalement ça devrait. Alors c'est encore un truc un peu mystique parce que faut taper genre Agoraphone Radio France. Et après, là, tu tombes sur une page. Mais sinon, dans l'agenda de la Maison de la Radio, ça devrait être publié demain ou après-demain.
On mettra le lien dans le podcast.
sinon, sur les réseaux d'absence.
Oui.
Ouais, voilà, ouais, n'hésite pas à aller checker l'Instagram, le Facebook. Ça, c'est moi recommandé. Mais...
Surtout l'Instagram.
surtout Instagram. Ouais, absence-du-bas Paris.
Voilà.
Et puis, voilà.
Et bah merci beaucoup à tous les quatre, merci à Yacine à la technique, et on va se quitter, sauf si j'ai oublié quelque chose, mais sinon on va se quitter avec Stay On It de Eastman dont vous parlez, qui fermera une moitié du concert, enfin qui sera dans le une moitié de la deuxième partie, c'est l'avant-dernière pièce, bon, bref, et qui sera un tout-petit jubilatoire.
Paris. Il est 22h.